prenez une carte au choix. Mais vous pouvez les mélanger, vous pouvez... Une fois que vous retournez la carte, bah vous lisez à haute voix.
Je me présente. All right. Alors, moi, il y a une chose que je déteste, c'est quand on est dans un groupe, je sais pas, n'importe quel groupe, un séminaire, autour d'une table, et il y a ce fameux tour de table où on doit se présenter. Et moi, déjà 3-4 personnes avant que ce soit mon tour, j'ai le cœur qui bat, je suis pas bien. Et ça m'angoisse de devoir dire qui je suis, mais vous pouvez pas savoir. Alors, je me présente comme autrice. Souvent, on me dit, mais c'est moche. Mais en fait, spectatrice, lectrice, directrice, personne trouve ça moche. Donc, c'est une question d'habitude. Et en plus, c'est pas un néologisme, c'est un mot qui existait au XVIIe, qui a été sciemment évacué de la langue française. Donc, il faut absolument l'utiliser pour qu'il réintègre notre langue. Il n'y a pas de raison.
Bonjour Céline Auclin.
Bonjour Lucas Torrent, animateur.
Céline Auclin, autrice aussi. Et cette autrice-là, c'est Antoinette Richner.
Voilà, elle écrit pour le théâtre, elle écrit aussi des nouvelles et des récits. C'est d'ailleurs à travers le recueil Petite collection d'instants fossiles que je l'ai découverte et j'ai eu l'occasion d'en lire des extraits à l'antenne sur la première. C'était dans Dernier rêve avant la nuit. C'était la nuit, c'était, ouais, voilà, l'émission du soir archive. Bon, Antoinette Richner commet aussi des romans, dont le récent Après le monde, une œuvre de fiction qui met en scène l'effondrement, qualifiée de roman en coup de poing qui laisse un goût de caresse par Pablo Servigne, hein, le maître de la collapsologie. Voilà, donc un roman qui est en lice pour le prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2021. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Antoinette Richner de passage à Lausanne et qui a été d'accord de se soumettre au jeu de cartes très personnel de Je me présente. C'est parti.
J'y vais. Donc, je prends une feuille jaune. La faiblesse des hommes, elles savent. Alors, comme ça, bon, ça me renvoie à une situation que j'ai vécue ce matin, dans le train. Donc, il y avait un groupe d'adolescents, des garçons, je les écoutais. Et ça parlait de la douleur, en fait. La douleur quand on se prend un coup dans le tibia. Puis aussi la douleur quand on se prend un coup dans les couilles. Et puis, il y en a un qui disait, c'est prouvé que c'est au moins 150 fois plus fort que la douleur de l'accouchement. Voilà, ça m'a surprise, ça m'a fait rire cette comparaison. Je sais pas, c'est comme si ça aurait diminué sa virilité de se dire qu'une douleur d'accouchement était plus forte que tout ce qu'il pourrait jamais connaître comme douleur dans sa vie, peut-être. J'ai eu des accouchements par voie basse, comme on dit.
Combien d'enfants ?
3 enfants. Une fille d'abord, puis après 2 garçons. La faiblesse des hommes, elles savent. Est-ce qu'elles savent, elles savent quelque chose à propos de la faiblesse des hommes, mais leur rôle, c'est de faire comme si elles ne savaient pas? Si je compare dans les rapports de force, est-ce que les enfants savent quelque chose de la faiblesse des parents, mais ils doivent aussi faire semblant qu'ils ne savent pas pour que ça puisse tourner, pour que ça puisse fonctionner, pour qu'ils... Bah, tout simplement que les rôles soient attribués, qu'on puisse aller de l'avant avec... une stabilité dans l'ordre social, dans l'ordre des familles, dans l'ordre des couples. Voilà, c'est certainement un tabou, la faiblesse des hommes. Donc, comment entourer un homme qu'on aime ou reconnaître des moments de faiblesse sans que ce soit une honte pour lui si on lui montre qu'on a vu qu'il souffrait ou qu'il était atteint. C'est aussi un espèce de double jeu qu'on a appris à jouer. Et je pense qu'on a tout à gagner à ce que... Bah, comprendre que ces notions de force, faiblesse, virilité, non-virilité, c'est des moyennes qui sont attribuées à des genres, mais qu'en tant qu'individu, à tout moment, on peut être dans un état de fragilité et qu'on ne gagne rien à s'en cacher, j'ai l'impression. Alors, prends cette rouge. Est-ce que ce monde est sérieux? Il est sérieux dans le sens où les conséquences sont sérieuses. Quelqu'un qui commet une infraction à la loi va vite le comprendre. Mais en même temps, il n'est pas sérieux parce qu'on est en train d'avoir collectivement un comportement suicidaire et puis qu'on le sait et puis on continue à faire comme si on ne savait pas.
Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une conscience. Enfin, j'ai l'impression que l'idée de catastrophe, en tout cas climatique, elle est dans toutes les têtes quand même. Mais on est dans un déni permanent. Et puis, ouais.
Vous avez pas mal exploré dans votre dernier ouvrage. Hein.
Bah, surtout dans le premier chapitre où il y a un peu un jeu ironique sur tout ce qu'on sait et pourtant on continue notre petite vie avec nos préoccupations quotidiennes. Puis c'est très compliqué de faire autrement, à part en se marginalisant complètement, mais on n'a pas forcément le choix non plus. Il y a beaucoup d'aspects de nos vies qui sont verrouillés de plus en plus. Et vous voulez que je vous lise un petit bout ? C'était l'année 2023. Sur les 8 milliards d'habitants que comptait la Terre, environ 1,5 milliard de personnes vivaient dans des pays appelés « pays développés à économie de marché ». Nous en faisions partie. Nous consommions en moyenne plus de 250 litres d'eau potable par jour et par personne, par année plus de 3000 litres de pétrole. Nos ménages s'élevaient à 2,5 personnes. Ils participaient à la production de centaines de millions de tonnes de déchets par an, garantissaient la consommation destructrice de masse et contribuaient à dévaster le monde, nous le reconnaissions. Cependant, nous commandions des Fairphone ou téléphones équitables. Question de conscience, de responsabilité, estimions-nous, qui préférions le pain multicéréal au pain blanc, le poulet fermier au poulet issu de l'élevage intensif, le sirop sans colorant au sirop grenadine, les snacks alternatifs aux chips industriels.
Est-ce que ce monde est sérieux ?
Après, il y a souvent la discussion entre où on oppose les petits gestes du quotidien et puis le combat politique. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu d'opposer non plus. C'est très bien d'avoir des petits gestes, tous les petits gestes comptent, mais c'est juste pas suffisant. Alors là, j'ai pris du rouge et ça dit « Dans le placard, tu te fais petit ». Eh ben alors, ça... On m'amène immédiatement à Harry Potter qui vit dans le placard chez les... Comment il s'appelle déjà cette famille horrible, les Dursley. Et donc j'ai essayé récemment, mon fils né a eu 7 ans et je me suis dit c'est le moment. J'ai acheté l'intégrale Harry Potter et puis j'ai commencé de lui lire le soir. Il était passionné mais au bout de 3 nuits il pleurait de peur en fait. Donc j'ai arrêté. Et puis, je crois que c'était l'idée des parents qui ont été tués par Voldemort. C'était trop, en fait. Je pense qu'il est sensible. Et puis, peut-être, je me suis dit, bon, bah, il faut faire attention. On ne peut pas lire n'importe quoi à n'importe quel âge. Je vais attendre. Ce n'est pas pour rien si ça a eu autant de succès. C'est que ça nous touche dans des fondamentaux, cette histoire-là. Ah, mais si, j'ai quand même quelque chose maintenant. Je peux quand même vous parler du placard. Le placard, tu te fais petit. Ça me rappelle un placard dans une maison de vacances, dans le Jura, vaudois. C'est une ancienne ferme très grande, tout est boisé à l'intérieur et il n'y a pas l'électricité partout. Et avec ma sœur, quand on était petite, il y avait une sorte de. Ouais, comme une porte de placard, mais en fait ça donnait sur un escalier assez raide en bois. Et avec une collection de chapeaux, des chapeaux d'été qui étaient accrochés à des patères. Et on disait qu'il y avait un personnage qui vivait là qui s'appelait le vieux sec. On avait très peur de ce vieux sec qu'on avait pourtant créé de toutes pièces. Mais du coup, on se faisait aussi petite quand on passait devant la porte parce qu'on avait super peur. Donc évidemment, c'était un personnage qui sortait que la nuit, etc. Mais je pourrais pas maintenant vous décrire comment était ce vieux sec, mais je sais que pour moi, il était très réel, en fait. J'étais persuadée qu'il existait, qu'il était là, puis qu'il fallait être sur nos gardes. Alors, je prends une couleur un peu moins franche. Il y a un petit saumon, là. Je défie le hasard. Bon, ça me conduit à des questions un peu sensibles de superstition, peut-être, notamment liées à l'écriture, où se pose forcément le problème de est-ce qu'on peut provoquer des choses réelles par la fiction en écrivant. Bah, par exemple, j'écris après le monde,
Est-ce que, donc, voilà, une œuvre d'anticipation, catastrophiste. Est-ce que je contribue à ce que ça se réalise en faisant un récit de quelque chose qui s'est passé? Est-ce que je modifie ce qui s'est passé, comme ça peut être le cas pour le souvenir? On dit qu'on reconstruit les souvenirs quand on les raconte ou quand on les fixe dans la mémoire. Est-ce qu'il y a une opération alchimique ou magique dans le fait d'extraire du matériau de la vie puis d'en faire de la littérature? Parfois, oui, ça me... Ouais, je me dis attention à ce que je touche. D'aussi d'avoir conscience qu'on se met en danger, mais aussi de protéger les autres, ceux qui nous entourent. Ces précautions au fait de bien séparer aussi peut-être des sphères de la vie avec nos proches, de la vie réelle, et puis de tout ce qu'on touche quand on écrit. Donc si, pour un certain nombre de lectrices et lecteurs, je fais exister l'idée d'un effondrement, ça peut augmenter les chances que cet effondrement existe, puisque ça existe déjà dans leur esprit. Dès qu'on met en forme ses pensées et qu'on les transmet, eh ben on peut pas savoir ce qui va en découler. C'est ça que je veux dire. On est responsable de ce qu'on écrit. On est co-responsable de ce qu'on publie avec l'éditrice ou l'éditeur. Mais on n'est pas du tout responsable de la réception. Ça, je crois qu'il faut quand même faire la part des choses. Je ne suis pas responsable de quelle interprétation va faire XY de ce que j'ai écrit.
On en prend encore une ?
Mm-hmm. Sale chipie de petite sœur. Ah ben oui, alors comme je suis une cadette, forcément que ça me parle. Donc ma grande sœur avait 4 ans de plus que moi, et puis certainement qu'elle a dû souffrir aussi du syndrome de la petite sœur qui a le droit de faire les choses avant, la petite sœur qui à peine elle avait embrassé un garçon que moi j'embrassais déjà aussi un garçon. Tout va plus vite avec les cadets. Et puis les parents, par la force des choses, laissent peut-être un peu plus faire ou sont plus permissifs. Et puis, je pense qu'elle a dû penser souvent de moi, sale chipie de petite sœur.
Vous entendez bien ?
Mais écoutez, ma sœur est décédée, en fait, donc je vais peut-être pas m'étendre là-dessus. Mais en tout cas, je peux parler volontiers de notre enfance, ouais.
Vous vous entendiez bien ?
Oui, on s'entendait bien. Et elle inventait beaucoup de... Beaucoup d'histoires, elle avait beaucoup d'imagination, elle a inventé des jeux, et puis elle m'entraînait tout le temps là-dedans, puis j'avais un immense plaisir en fait. Toutes sortes de jeux avec des personnages, des lieux. On était deux femmes chics sur un bateau transatlantique, une fois on était dans une fusée, une navette spatiale avec des marcassins. Une fois on était dans un pays imaginaire qui s'appelait l'Irigli. Ça allait loin, il y avait des... parce qu'on était hyper sous influence des films Sissi. On adorait ces robes de Sissi, Romy Schneider, tout ça. Si elle me disait « on joue à Marcassin dans la fusée », ben je pouvais tout de suite me mettre dans l'univers, parce qu'on jouait pas qu'une fois à Marcassin dans la fusée, on jouait quand on avait envie, mais du coup, le simple titre, en fait, ça convoquait directement tout le monde qui allait autour, chacun savait, on savait chacune quel rôle on avait. C'était infini, c'était une immense richesse. Tout ce qu'elle a construit aussi pour nous. Tous ces univers-là, ils m'ont construite. Je crois que ça fait partie de moi.
Antoinette, est-ce qu'on en tire encore une, puis après on s'arrête
ouais,
là ?
Ouais, ouais.
Quelle couleur ?
Bleu ciel, change de ciel. Dans le canton de Neuchâtel, d'où je viens, il y a le bas et le haut. Profonde question historique, sociale et politique. Il y a un conflit autour des gens du bas, des gens du haut. Entre deux, il y a encore le Val-de-Rue. Et en automne, il y a du stratus qui vient du lac, donc jusqu'environ au Val-de-Rue. En tout cas, les gens de Neuchâtel-Ville sont sous le stratus, donc ils ne voient pas le soleil. Et très souvent, les gens de la Chaux-de-Fonds sont au soleil, parce qu'ils sont au-dessus. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens du bas qui téléphonent aux gens du haut. Ceux qui sont amis, ceux qui arrivent à passer par-dessus le conflit. Ils se disent « Ah, t'as du soleil, toi ?»« Ben oui, moi j'ai du soleil depuis ce matin. »« Ah, ben moi, ça va bientôt percer, là. » Voilà, c'est un peu la revanche, parce que le lac, c'est quand même un élément attractif, donc les gens du bas sont très fiers de leur lac, et puis les gens du haut, ils se disent oh, « ben pourquoi ils font les malins avec leur lac ?» Et ben là, c'est la revanche en automne, ils ont le soleil, ils ont un truc en plus, voilà.
Krishna, vous êtes du haut ou du bas, vous ?
J'ai grandi dans le bas, mon amoureux vient du haut, donc on peut parler d'un couple mixte. Donc on a toutes sortes de ciels dans notre union.
Et quand vous changez de ciel, c'est ensemble ?
Bon, on change de ciel on peut être bloqué aussi sous un ciel. Donc c'est bien de se dire que change de ciel, pour moi, ça veut dire secoue le sac, passe à autre chose. C'est possible à tout moment. Il faut juste se souvenir qu'on peut le faire.
Réalisation Bastien Meucli. Une très belle rencontre, Céline Auclin, avec Antoinette Richner, qui donc a un livre en lice pour le prix littéraire de Chafouze.
Exactement, aidez-moi. Vous avez tout juste. Non, prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2021.
Et ce livre s'appelle ?
Après le monde, et il est paru aux éditions Buchet-Chastel, collection qui vive.